Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film en solo, bande-annonce.
The type that comes when you've been hurt repeatedly by the same person.
You've been gushing about Seattle since the day I first met you.
If he loves you, he could follow you.
I was hoping that we would move to London after graduation.
And how was I supposed to know that? Only in those rare moments when he pulls me to his chest and makes promises he never seems able to keep. Does the pain disappear?
François est allé chez lui regarder sur Amazon Prime After chapitre 3, réalisé par Castille Landon avec Joséphine Langford et Hero Fiennes Tiffin. Et qu'en as-tu pensé? Et déjà, ça parle de quoi?
Ça parle de quoi? Alors, mais est-ce que vous savez ce que c'est que After, les amis? Je vous pose la question.
C'est l'endroit où tu vas après une soirée?
C'est un délire pour pseudo-érotique post 50 nuances de grès,
oui,
dire,
voilà,
pour
c'est
les
un peu
préados.
Ça. Si vous voulez, c'est un grand succès littéraire, une saga fleuve en roman, qui à la base est basée sur une fanfiction d'histoire d'amour avec Harry Styles, le chanteur des One Direction. Et donc ceci est devenu une série de livres, et ceci est devenu donc une série de films, où nous avons donc Tessa, qui va tomber, malgré elle, amoureuse du bad boy qui est Hardin. Et alors dans le premier film, si vous voulez, je vous fais un bref résumé des précédents films, parce que je sens que vous avez raté des stations avant d'arriver dans cette émission.
Une saga apparemment dantesque, hein, qu'on a raté.
Ah non, mais alors là, tu ne crois pas si bien dire, puisque dans le premier film, Hardin et Tessa sont ensemble, mais en fait Hardin avait dragué Tessa à la suite d'un pari. Et à la fin du film, elle se rendait compte que c'était à la suite d'un pari, donc cela mettait leur amour en péril.
Twist.
Dur, dur.
Dans le deuxième film, Tessa a un nouveau job. Alors forcément, un job d'éditrice dans une maison d'édition où elle lit des bouquins, elle fait du comité de lecture, comme absolument tous les personnages de ce genre de série. Non, 50 nuances de gris, c'est la même chose. Et donc là, à la fin de cet épisode-là, alors déjà, on apprenait que Hardin avait un passé trouble et qu'il n'était pas bad boy pour rien, parce qu'il avait vécu des violences conjugales. Il avait vu sa mère se faire frapper par son beau-père quand il était enfant. Et donc du coup, c'est ça qui lui fait faire des cauchemars et qui le rend un petit peu edgy. Et Tessa, elle...
Et du coup, il va avoir un psy dans le deuxième film?
Non, non, bah non. Alors attends, je vais t'expliquer comment se passe la thérapie. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et Tessa, elle, à la fin du film, retrouvait son père qui avait disparu et qui était devenu clochard dans la rue. Voilà, ça c'était la fin du deuxième film. Alors il faut savoir qu'il y a une structure très particulière dans le film. On est sur une alternance de scènes où c'est une scène où ils s'engueulent pour une raison X ou Y, mais en fait, s'ils parlaient, il n'y aurait aucun problème. Hein. Mmh. C'est juste que comme ils ont des difficultés de communication entre eux, ils passent leur temps à s'engueuler, et alors vraiment en mode full drama, c'est-à-dire vraiment, faut vraiment qu'il y ait des gens autour, que ça fasse du drama, que les gens pleurent, qu'il y ait des trucs cassés, et tout ça. Et après, donc, scène de cul. Parce qu'ils se réconcilient directement. Ah oui, non, mais désolé, Nam fait des yeux de 3 pieds de long. Si, si, scène de cul, je le dis. Alors, attends, non, attention, ouais, scène de cul. Alors, on est dans une saga pour adolescents.
Non, mais je tiens quand même à noter que c'est une relation qu'on a tous envie de vivre.
Ah, bah, bien
ça
sûr.
Ça a l'air parfait.
Ça a l'air génial. Et alors, par contre, quand on voit les scènes de cul, moi, ça m'a rendu asexuel. Hein, je te le dis tout de suite. Je ne veux plus toucher un corps humain de ma vie après avoir vu ça. Ils font l'amour tout habillé, hein, quasiment toujours, dans des ondes. Alors, à chaque fois, c'est des lieux un peu différents, tu vois. Genre la salle de sport, des trucs comme ça et tout ça. Et moi, ça me cringe. J'ai l'impression de regarder un documentaire animalier. C'est horrible. Vraiment, c'est pas du tout sexy à aucun moment et c'est pas possible. Mais je conçois que ça puisse émoustiller un public américain de 13 ans. Peut-être.
D'accord.
Et encore.
Peut-être. Et donc, du coup, leur donner des bonnes habitudes.
Et donc, du coup, le 4 est prévu, c'est ça?
Le 4 est déjà tourné, Nam. Le 5 arrive, et sachez que donc, dans cet épisode.
Et il y en a
3,
combien au final?
Autant que nécessaire.
D'accord.
Autant que nécessaire. Je sais plus combien il y a de livres exactement, mais ça peut aller plus loin. Et puis, tu sais, une fois qu'ils ont fini, ils peuvent continuer.
Ils peuvent trouver un autre mec.
Oui, voilà.
Ça crée d'autres problèmes.
C'est exactement. Exactement. Sinon, quoi dire? Ah bon, alors voilà, niveau scénario, vous avez compris, ça vole pas très haut. Niveau jeu d'acteur, ça vole pas très haut non plus. J'ai plutôt préféré cet épisode-là par rapport au précédent, parce que là, il y a quand même quelques enjeux, etc., etc. En revanche, le twist de fin que je vais m'empresser de vous révéler, alors pour moi, c'était pas un twist, en fait. Pour moi, c'était totalement acquis depuis le début de la saga. C'est-à-dire qu'en fait, Hardin a un beau-père qui tapait sa mère, et je me suis dit, bah, son père, c'est le mec qui est proche dans la famille, donc c'est le chef de la maison d'édition. Et pour moi, c'était évident depuis le début. Mais non, c'est le reveal du film, en fait. À la fin, il fait « Oui, je suis ton père !» Et je fais C'est pas toi, t'es pas son père depuis le début, je comprends pas. Vous avez une relation père-fils depuis le début. Quelle est la news? Alors évidemment, il le vit très très mal. Mais Tessa est là pour le recueillir et ils s'embrassent au milieu des rues de Londres.
Sous un feu d'artifice.
C'est en plein jour, il pleut et il y a des bus à l'impérial. Voilà. Enfin, il pleut vite fait. Enfin, il fait gris, quoi.
C'est pas dans un aéroport.
Voilà. C'est filmé comme un téléfilm, donc c'est très bien que ce soit sur Amazon Prime. Si vous aimez les... Moi, j'aime... Écoutez, je regarde Riverdale, j'aime ce genre de saga très sopesque et tout ça, il m'en faut une de temps en temps.
Mais tu vois, ça Riverdale, encore, de ce que j'ai compris...
C'est parodique.
La saison, la saison 1 a l'air pas terrible, mais après, ça a l'air de partir franchement en couille et ça a l'air trop bien.
Alors, normalement, ça dépend de ce que tu aimes. C'est-à-dire que la saison 1 est correcte parce que c'est plutôt une bonne série, ça ressemble un peu à Twin Peaks, c'est sympa. Et après, effectivement, ça devient un soap opéra ultime où c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire, pour te dire, les personnages du début, il y en a une qui est à moitié agent du FBI. Archie, c'est un vétéran de guerre traumatisé par la guerre, etc. Enfin, t'as tous les twists possibles et inimaginables. C'est ingardable, mais j'adore.
J'ai appris qu'il y a une secte qui a été créée sur le cadavre d'un type qui est mort dans la première saison.
Exactement.
Et ils ont gardé le corps au congèle.
La secte, et en fait, comme c'est sur une plantation forestière de sirop d'érable, n'est-ce pas? Enfin, d'érable.
Oui, oui.
Le son du Christ dans cette texte, c'est du sirop d'érable. Donc en fait, il y a une dimension un peu autoparodique dans Riverdale qui est assez sympa. Et les auteurs sont pas dupes, tu vois. Tu sens que, en plus, comme Archie doit être à poil, enfin à moitié à poil pendant au moins une scène du film, il lui trouve des métiers où il a l'occasion de se changer, où ils l'emmènent dans un sauna, ils lui font faire de la lutte, ils le mettent en prison, des trucs comme ça.
Ils le mettent en prison pour qu'il fasse des fist-fights torse-poil.
Et voilà, exactement. Donc... Riverdale, il y a un petit peu plus de parodie, mais par contre, c'est quasiment irregardable parce que le scénario est vraiment indigent au dernier degré. After, c'est plus stupide. Donc, en fait, ça ne sollicitera pas beaucoup de cerveau. Puis, c'est un peu comme regarder une télé-réalité, en fait. Tu sais, c'est des gens qui s'engueulent et qui font des bisous dans un coin. Enfin, c'est le même schéma. Donc, c'est le même type de plaisir.
Et sur l'échelle 50 nuances, alors c'est...
Ah, moi, je trouve ça mieux que 50 nuances parce que. Enfin, mieux. Tout est relatif. Je trouve que 50 nuances est pire, pardon. Non, parce que 50 nuances, c'est pas possible, quoi. Enfin, les personnages sont pas possibles. Les personnages n'ont aucun charisme. Là, les acteurs, bon, jouent pas très bien, mais c'est des ados, quoi. On les pardonne. Les autres, c'est censé être des adultes, quoi. Donc ça, là, c'est pas possible. Et puis, c'est d'une vulgarité sans bande, quoi. 50 Shades. C'est à la fois prude et vulgaire. Je sais pas comment ça a réussi, ce truc-là. Alors que là, c'est bébête.
C'est américain, hein.
Voilà. Bah écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a un peu dérivé sur Riverdale, mais écoutez, pourquoi pas.
Merci François.
Eh ben de rien.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.